Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le gouvernement demande aux pétroliers un effort sur les salaires pour mettre fin aux grèves dans les raffineries. Mettre fin aussi à la galère des automobilistes, trop souvent désemparés devant des stations fermées au moment de faire le plein. Dans l'actualité, également les opposants à Vladimir Poutine récompensés par le Nobel de la paix aujourd'hui. Le voyage du gouvernement en Algérie, Elisabeth Borne emmènera avec elle 16 ministres dimanche, du jamais vu. Mais pourquoi un tel déplacement 2 mois après celui d'Emmanuel Macron? Pour marquer quelle étape dans la relation franco-algérienne? On en parle juste après le journal avec l'historienne Naïma Hubert-Yahi.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on ira dans un restaurant ouvrier de Mayenne qui a eu les honneurs du célèbre guide Goemio. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et alors que s'ouvre le salon du fitness aujourd'hui, tous nos conseils pour rester fit, justement, abdos, fessiers, oui. Quels sont les meilleurs exercices, Pascal, pour garder la ligne? Notre coach vous dira tout.
Bien évidemment. Et puis les toutous également.
Très, très cher toutous, c'est un marché de niche, vous l'avez.
Oui.
Mais qui progresse. Pierre Herbulot a enquêté sur ce juteux marché des animaux de compagnie plongé dans un univers étonnant à 12h40. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Et aujourd'hui, les confidences exclusives de Thomas Joly. C'est lui l'artiste qui vous fera rêver lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La question du jour sur RTL.fr. Avez-vous été dans plusieurs stations-service avant de réussir à faire le plein?
Autant de sujets évidemment que dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fait polémique puisqu'il demande le 16 octobre prochain de descendre dans la rue et qui sait d'aller chercher le roi, la reine et le dauphin. Il fait référence à 1789.
Avant ça, la météo avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Beau, vous voulez un mot? Il fait beau encore presque partout, juste un peu de pluie sur les Pyrénées. On garde cette douceur et ce soleil.
Je développerai tout à l'heure, on avait dit un mot. Merci Valérie, météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
C'est un texte qui a été adopté sur le fil par les députés cette nuit contre l'avis du gouvernement. Les parlementaires veulent permettre aux parents qui reçoivent une pension alimentaire de la déduire du revenu fiscal de référence. Alors ça peut paraître technique, mais ça changerait pas mal de choses, Marie Guerrier.
Oui, parce que quand les services fiscaux vont calculer votre revenu fiscal de référence, qui sert de base pour attribuer des aides sociales, eh bien ils ne prendront plus en compte la pension alimentaire que vous touchez. Et l'intérêt, si le revenu fiscal de référence baisse, c'est qu'il ouvre droit à davantage d'aides sociales. Il est utilisé par exemple pour attribuer la bourse des collèges, pour attribuer un logement social. Il sert aussi de base pour l'exonération d'impôts locaux, de taxes foncières. C'est le revenu fiscal de référence qui est utilisé actuellement pour l'attribution du chèque énergie. Alors attention, pour autant, ça ne veut pas dire que la pension alimentaire est exonérée d'impôts. Elle entre toujours dans le calcul du revenu net imposable qui détermine là si vous devez payer ou non l'impôt sur le revenu.
Je vous vois français, Pascal.
Non, parce que je trouve que c'est un excellent sujet pour nos auditeurs. Et il y a quelque chose qui ne paraît pas forcément logique dans cette proposition de loi, ou en tout cas dans cette loi telle qu'elle a été votée. Et les auditeurs pourront réagir.
Alors, l'amendement a été voté en première lecture. Il y aura une deuxième lecture. Il y a eu beaucoup d'abstentions, et notamment la majorité présidentielle qui, pour l'instant, n'a pas voté.
Parce que c'est un revenu, par définition, une pension alimentaire.
Il compte dans l'impôt sur le revenu, toujours.
Oui, j'ai bien entendu. Mais il ne compte pas pour ouvrir aux aides sociales.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, lui accuse Jean-Luc Mélenchon de dépasser les bornes avec, je cite, son appel à la violence sociale. Dans un tweet consacré à la marche organisée par la gauche le 16 octobre prochain, Jean-Luc Mélenchon avait fait référence à la Révolution française, expliquant qu'en octobre 1789, les femmes qui marchaient sur Versailles avaient ramené le roi, la reine et le dauphin de force à Paris. Faites mieux le 16 octobre, a ensuite intimé le leader insoumis.
Le gouvernement demande aux pétroliers des efforts sur les salaires.
Et cela afin de désamorcer la grogne sociale dans les raffineries et mettre fin aux grèves qui provoquent depuis plusieurs jours déjà des problèmes d'approvisionnement en carburant. Car au bout de la chaîne, de nombreuses stations essence sont obligées de fermer. Les pistolets ne crachent plus rien, les cuves à sec. Christophe Bourou, vous avez sillonné la région parisienne pour RTL et vous l'avez constaté. Faire le plein n'avait rien d'évident ce matin.
Ah, ça a été compliqué. Au petit matin, en Ile-de-France, puisqu'avant 7h30, nous n'avons trouvé que 3 stations ouvertes. ouvertes sur 11, dont certaines n'avaient que du diesel, avec déjà dès 5h30 de longues files d'attente, une bonne trentaine de voitures et camionnettes, principalement des professionnels, taxis, livreurs, infirmières, qui espéraient le passage des camions-citernes pour faire le plein.
Oh, ça fait clairement une bonne demi-heure, ouais.
Je suis debout depuis 5h du matin. Et depuis 5h du matin, là, c'est la première station. J'ai fait 6 stations.
En fait, j'ai cherché depuis 3h du matin. Et comme je fais VTC, le problème, c'est qu'on consomme pas mal. Et là, j'ai déposé un client. Et j'ai trouvé, il est en train de remplir. Je dis, vas-y, c'est l'occasion pour mettre. Et bah, c'est ça.
Combien d'attente? Ça fait 3 heures d'attente?
Ouais, 3 heures.
Alors, 3 heures d'attente, hein, par exemple, pour c'est cet bon. Automobiliste. Avant 8 heures, beaucoup mieux. Hein. Beaucoup de stations ont pu être livrées avec des camions-citernes. C'était le cas à Beauvais, dans l'Oise. C'est là que nous avons même fait le plein avec la voiture RTL, station totale. On a patienté 43 minutes. Et en réalité, Jonathan Griveaux, notre technicien qui m'accompagnait, n'a pas pu faire complètement le plein.
Oui, je suis en train de faire le plein là et c'est limité à 50 euros par personne.
On va pouvoir rentrer à RTL là, quand même.
On devrait y arriver. Ouais.
Voilà, on est arrivé oui, à RTL, mais vous voyez, dans plusieurs stations, je suis là, mais dans plusieurs stations, la prise de carburant est limitée à 50 euros maximum. L'objectif en fait pour beaucoup d'automobilistes qu'on a croisés, c'est surtout de trouver une station ouverte aujourd'hui.
Christophe Bourreau pour RTL, merci.
Un prix Nobel de la paix collectif cette année, très politique.
Car en pleine guerre en Ukraine, c'est un petit camouflé qui est offert à Vladimir Poutine en guise de cadeau d'anniversaire, lui qui fête aujourd'hui ses 70 ans. Le comité Nobel a en effet décidé, Sophie Jousselin, d'honorer des opposants au président russe.
Oui, 3 champions remarquables des droits humains et de la démocratie en Bélarus, Russie et Ukraine, a déclaré Berit Reiss-Andersen, la présidente du comité Nobel. Premier nommé, le militant des droits de l'homme biélorusse, Aliés Bialyatsky, opposant de longue date au régime du président Loukachenko, emprisonné une première fois de 2011 à 2014. Ce spécialiste de littérature de 60 ans est actuellement incarcéré depuis fin 2021. Le comité Nobel a d'ailleurs demandé sa libération. Honoré aussi l'association Mémorial, la plus ancienne ONG de défense des droits de l'homme en Russie, dissoute en décembre dernier par la justice russe. Elle avait été fondée en 1989 par l'ancien dissident russe Andrei Sakharov. Le troisième coloréat est le Centre des libertés civiles, une ONG ukrainienne fondée en 2007. Ce prix n'est pas dirigé contre le président Poutine pour son anniversaire, a tenu à préciser la présidente du comité Nobel, tout en dénonçant les gouvernements russes et biélorusses qui s'attaquent aux militants des droits humains.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
Veillée d'armes pour l'équipe de France féminine de rugby.
Les Bleus s'apprêtent à débuter leur Coupe du Monde la nuit prochaine en Nouvelle-Zélande. Ce sera à l'Eden Park, le temple des Blacks, et face à l'Afrique du Sud. Un premier match déjà crucial pour le 15 tricolore féminin qui rêve d'un premier titre mondial. Les Françaises impatiente à l'image de l'attaquante Gabrielle Vernier.
On est très excités à l'idée de jouer. Voilà, on a eu la cérémonie d'ouverture là, cette semaine. Ça a commencé à devenir concret. On a vraiment hâte d'y être. Cette compétition, on l'attend depuis très très longtemps pour certaines. Voilà, ça fait 4 ans qu'on la prépare, 4 ans qu'on en entend parler, 4 ans qu'on travaille dur pour y être. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pression. On a juste hâte que ça commence et pour pouvoir montrer un peu tout ce qu'on a travaillé ces longues semaines. On est bien adapté au climat et à la température néo-zélandaise et on a hâte de pouvoir commencer et jouer à l'Eden Park.
Gabrielle Vernier, l'attaquante des Bleus, propos recueillis pour RTL par Jean-Michel Rascol. Le match sera donc à 3h15, heure française cette nuit. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin pour développer ce que vous appelez beau cet après-midi.
Bah, du soleil, c'est beau.
C'est pas mal.
Eh ben voilà, j'ai développé. On a quelques petites plaques de grisaille qui traînent en Franche-Comté, en Bourgogne ou encore sur les hauteurs du Var. C'est vraiment pas grand-chose. Ça va se lever, place au soleil partout cet après-midi. Il y a quand même des orages en Méditerranée, en Espagne qui vont remonter et qui vont toucher un petit peu les Pyrénées. Donc ça pourrait aller jusqu'à l'averse ce soir. C'est tout. Et sinon, un soleil peut-être aller un petit peu voilé le long des côtes de la Manche. C'est vraiment pour chipoter. Les températures, ça reste doux. 19 degrés à Metz cet après-midi, 20 degrés à Nantes, à Paris, à Reims, 23 degrés pour Lyon et Nice et 25 degrés à Toulouse.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, et chaque jour, vous le savez, l'info au plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction la Mayenne. Bonjour Christian Panvert.
Bonjour à tous.
Christian, vous nous emmenez à Bray, où le Bistrot de la Gare, un restaurant ouvrier, vient de faire son entrée dans l'édition régionale du Goemio. C'est l'un des 10 plus petits restaurants référencés. Alors Christian, vous qui l'avez testé, il est comment ce restaurant ?
Eh bien, c'est un ancien hôtel des années 30.
en bordure d'une route départementale. Les murs sont en pierre blanche et granit gris. À l'intérieur, un bar en zinc avec sa tireuse à bière, une rôtissoire pour la préparation de poulet et une salle qui peut recevoir une trentaine de personnes. Alors direction maintenant les cuisines, à la rencontre d'Emmanuel Mureau, un chef heureux évidemment.
Ah bah oui, c'est un sacré coup de pied. On est même en retard ce matin, on a eu la visite de pas mal de curieux. Mais c'est sympathique.
Quel est le menu du jour ?
On a des petites araignées de porc qui sont à la crème et aux champignons de Paris, des poulets fermiers mayonnais, frites, des butternuts. Je me suis servi des graines d'un peu de millet et de panure pour faire des panés de volaille.
Voilà donc un petit exemple pour les plats principaux. En entrée, c'est rillettes du chef et en dessert, tarte aux pommes. Le chef qui ne travaille que des produits de saison et le menu est à 13 euros seulement.
Ben, c'est ça qui est quand même tout à fait extraordinaire. Une formule à 13 euros, entrée, plat, dessert. Mais comment fait-il ?
Eh oui.
À Paris, eh bien... c'est à peine une entrée parfois.
Évidemment, eh bien Emmanuel Mureau privilégie les circuits courts avec des producteurs bio et locaux.
Aujourd'hui, les producteurs en bio, ils n'utilisent pas d'engrais. On sait qu'avec l'Ukraine, le manque de gaz, etc., bah, les engrais montent en flèche au niveau du tarif. Ils sont très peu mécanisés, donc ils utilisent peu de gasoil. Moi, j'ai quelqu'un qui se trouve à côté et qui fait des tomates qui sont moins chères qu'à Super U. On a supprimé cette idée du buffet, qui est en fait un gouffre économique. On met souvent de la nourriture à pas trop cher parce que, bah, à la fin du service, au niveau de l'hygiène, on est obligé de tout jeter. Là, on gère carrément ses coûts économiques et on peut mettre un peu plus de qualité dans les assiettes.
Et quelle est la clientèle, Christian ?
Eh bien, des ouvriers comme Arnaud, un élagueur.
C'est assez surprenant, oui. On mange très très bien. Franchement, je reviendrai.
Philippe, un chef d'entreprise.
On a vraiment du produit du coin. C'est local et c'est excellent.
Ou encore des retraités comme Isabelle.
C'est comme à la maison, en fin de compte. Hein. Je suis même pas sûr que des fois, chez soi, ça ne revienne pas plus cher.
J'imagine que cette entrée au Goemio met un peu la pression, Christian.
Et oui, Pascal, forcément, mais Sandrine Lascry, la co-gérante, promet de garder la tête sur les épaules.
On va rien changer, on va rester nous-mêmes, surtout rester nous-mêmes, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on est dans le Goemio. Après, il y a des petites pistes d'amélioration que le Goemio nous a indiquées, auxquelles on adhère complètement, mais ça ne va pas du tout changer notre philosophie, quoi. On va rester tel qu'on est.
Et depuis que l'établissement a fait son entrée au Goemio, eh bien les gérants proposent un menu gastronomique un samedi soir sur deux. Cette fois, c'est un petit peu plus cher, c'est pour 30 euros.
Bah, ça reste raisonnable quand même. Donc c'est à Bré, hein, c'est cela ?
C'est ça, en Mayenne.
En Mayenne, et c'est le bistrot de la gare.
Et c'est ça, je pense que vous allez adorer.
Bah, on va y aller, surtout avec Céline, et puis on vous invitera, bien évidemment, Christian. Merci en tout cas. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Elisabeth Borne, première ministre, et 16 ministres en Algérie. Pourquoi ? On vous explique tout.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi.
Vive
C'était le 27 août dernier dans les rues d'Oran lors de la visite d'Emmanuel Macron. Moins de deux mois plus tard, Elisabeth Borne se rend à son tour en Algérie ce dimanche, ce lundi. Et avec elle, pas moins de 16 ministres, dont Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Colonna, Éric Dupond-Moretti ou encore Pape Ndiaye. Au programme, la jeunesse, l'économie, la transition énergétique. Pour en parler avec nous, Naïma Hubert Yahi, vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Côte d'Azur. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Borne est 16 ministres en Algérie. 16. Pourquoi autant ? Quel signe veut-on envoyer aux Algériens avec ce voyage ?
Le signe, c'est celui d'une parole donnée, celle de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé au mois d'août. C'est aussi celle d'un gouvernement mobilisé pour mettre en œuvre la parole présidentielle.
C'est quoi ? C'est pour sceller une forme de réconciliation après des années qui ont été un peu plus compliquées ?
Je dirais pas réconciliation, parce qu'il n'y avait pas une brouille, si ce n'est l'année dernière, suite aux déclarations de président Macron, mais plutôt des retrouvailles chaleureuses, et surtout une promesse pour l'avenir. Je pense que après le temps politique, c'est le temps de la mise en œuvre, et c'est cette démonstration de force qui est proposée aujourd'hui.
Après la visite précisément d'Emmanuel Macron en août dernier, quelle est l'attente, à votre avis, du côté de l'Algérie et des Algériens ?
Déjà, la rue algérienne, qui n'est pas forcément en phase avec le pouvoir algérien, c'est celle de plus d'opportunités, plus de considérations, notamment pour les mouvements en faveur de la démocratie, pour les opportunités dans le champ de la recherche, des études, de l'entrepreneuriat. Et je pense que la dimension économique et aussi celle de la jeunesse vont être au cœur de ce voyage.
Et au-delà des enjeux diplomatiques, peut-être il y a des intérêts économiques à cette visite ?
Oui, il y en a déjà pour la France. On le sait, on vit en ce moment un temps particulier avec cette crise des hydrocarbures et du gaz qui se formalise cet hiver 2022. Cette discussion, elle va avoir lieu. C'est pas l'objet de ce voyage, mais ça fait partie en arrière-plan des négociations. Et le second temps, pour les Algériens eux-mêmes, c'est cette fermeture des frontières quasiment pour ceux qui veulent avoir un visa pour la France et cette absence d'opportunités pour une jeunesse qui aspire aussi à peut-être effectivement dialoguer, travailler avec la France.
C'est deux sujets très sensibles, hein, le gaz et les visas quand même.
Le gaz et les visas, mais n'oublions pas que l'entrée en matière avec l'Algérie, ça a été la question de la mémoire, puisqu'on est encore dans un temps de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, même si ce n'est pas l'objet de ce voyage. La question mémorielle
mais
a fait partie
en filigrane. Très clairement, on sent que les plaies ne sont pas refermées entre la France et l'Algérie, que ce soit côté français ici et sans doute côté algérien.
Elles ne sont pas refermées, mais il est temps de passer de la mémoire à l'histoire. C'est pour ça que l'annonce d'une commission mixte franco-algérienne d'historiens, qui en tout cas on attend encore la liste pour les deux pays, même si je pense que la France est en train de la constituer, peut-être que des annonces seront faites dans les prochaines semaines pour pouvoir mettre en œuvre ce groupe de travail et peut-être offrir des outils pour la recherche, même si de nombreux travaux, notamment sur des sujets sensibles comme les disparus, les essais nucléaires ou encore la question de la mise en récit des mémoires polysémiques de la guerre d'Algérie mériterait d'aller plus loin en concertation avec les chercheurs des deux rives.
Bah écoutez, merci beaucoup Naïma Hubert-Yahi. Je rappelle que vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université Côte d'Azur. Merci encore.
Dans un instant, RTL Midi, votre ville, le salon du fitness, figurez-vous, s'ouvre aujourd'hui à Paris. Je ne sais pas si Damien Béchiot, qui est à la réalisation, il n'en a pas besoin. D'ailleurs, je ne sais pas si nos amis qui sont avec lui vont aller à ce salon. Comment rester en forme, même quand vous avez peu de temps? Toutes les astuces d'un coach dans un instant. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport.
Et oui, il va y avoir du sport dans RTL Midi, le sport et les Français, relations compliquées.
On n'est pas une nation sportive, on le dit à chaque fois, mais c'est une réalité.
Oui, et puis 95% des Français n'ont pas une activité physique suffisante, selon l'ANSES. Là, c'est plus
c'est
côté
énorme, hein,
santé. C'est beaucoup. Le salon du fitness s'ouvre aujourd'hui au Parc Floral à Vincennes, près de Paris. Alors, on s'est mobilisé, on va essayer de vous donner quelques astuces pour faire du sport en peu de temps, gagner en énergie. Pour ça, nous sommes avec Harmonie Ribal. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes coach sportive, cofondatrice de En Forme Yvonne et À Fond Raymond, premier club forme et santé pour les femmes et hommes de plus de 40 ans. Pour être honnête avec Pascal, on a assez peu de temps pour faire du sport et on voudrait quand même garder la ligne. Comment on fait?
Alors c'est très simple. Moi, j'ai 5 conseils pour se remettre en forme et être enfin régulier. Et en fait, tout est une question d'organisation. Vraiment d'organisation. Donc, le premier conseil que l'on donne souvent à nos clients, c'est déjà premièrement de définir vos objectifs et en fonction de votre niveau. Donc, par exemple, en objectif, on peut avoir de la perte de poids, améliorer ses capacités respiratoires, améliorer son capital santé ou encore ne plus avoir mal au dos.
Ouais, si j'ai jamais fait de sport, vraiment... on me lance pas dans un marathon tout de suite, quoi.
Exactement, c'est ça, exactement. Vaut mieux éviter et c'est pour ça qu'on conseillera à ce moment-là d'aller plutôt sur des activités qui sont plutôt douces. Donc je ne sais pas si vous connaissez la discipline comme le pilates, qui est une activité qui permet de se renforcer en profondeur et vraiment en douceur. Et souvent, le dos aime beaucoup.
Bon, il faut 3 quarts d'heure hein, pour le pilates. Il faut 3 quarts d'heure dans une journée. Oui. Et c'est combien de fois par semaine? D'abord, combien de fois par semaine? Ça, c'est une bonne question. 2 fois ou 3 fois ou tous les jours?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, selon les recommandations, on va privilégier les séances plutôt de 45 minutes. Mais après, voilà, ça dépend vraiment du temps qu'on a dans sa journée. Tout le monde n'a pas 45 minutes à accorder à ça. Donc, dans ces cas-là, on peut tout à fait faire 20 minutes, mais plusieurs fois dans la semaine. Et pareil, toujours selon les recommandations, d'éviter de laisser 2 jours consécutifs sans activité physique.
Donc, tous les 2 jours, 20 minutes. Et si j'ai que 20 minutes, par exemple, qu'est-ce que je fais comme exercice? Qu'est-ce qui est le plus efficace en 20 minutes?
Alors, le plus efficace en 20 minutes, ça dépend vraiment, là encore une fois plus, de la problématique, tout simplement. Si vous êtes sur une reprise sportive, vous pouvez faire des exercices très simples au poids de corps. Ça peut être, alors je ne sais pas si les termes vont être compris, mais ça peut être un peu de squat, un peu de séance d'abdominaux.
Alors, je ne sais pas ce que c'est que le squat, évidemment. Donc, il faut qu'on soit concret, précis. J'ai 20 minutes. Est-ce que, par exemple, je fais de la course à pied ? Est-ce que je fais du vélo d'appartement ? Ou est-ce que je fais de la piscine ? Qu'est-ce qui est le mieux ?
Vous faites une activité physique qui vous fait plaisir. Donc, il n'y a pas de mieux. Le plus important, c'est vraiment de bouger. Donc, on parlera d'activité...
Vélo d'appartement, c'est bien ou pas ?
C'est très bien.
Très bien.
C'est très
rameur,
bien.
Rameur, c'est moins bien ou c'est plus difficile ?
C'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Si vous n'aimez pas le rameur... Préférez le vélo. Si vous n'aimez pas le vélo, préférez le rameur.
Alors, parce que ça, bougez. C'est pratique, le vélo d'appartement. On peut tous en acheter un. Plutôt le matin ou plutôt le soir ?
Une fois de plus, ça dépend de votre planning. En fait, l'objectif, vraiment, une fois...
Tout dépend,
l'objectif,
en fait.
L'objectif, c'est de le
mais
faire,
ça dépend,
en fait.
Ça dépasse.
C'est tout simplement de le faire.
Oui, mais...
Voilà.
Alors, c'est pas le cas de Pascal, mais parfois, les hommes, passés un certain âge, ont un petit peu de ventre. Par exemple, dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien tenir sa ceinture abdominale ? C'est des abdos, c'est du gainage, toujours avec cette contrainte de 20 minutes disponible, par exemple.
20 minutes, c'est un peu court, mais 30 minutes, on peut trouver 30 minutes dans une journée, quand même.
Alors, si on peut trouver 30 minutes, effectivement, c'est encore mieux. Alors, encore une fois de plus, le pilates, c'est génial pour travailler la sangle abdominale
mais
pilates, en profondeur.
Vous pouvez pas le faire tout seul.
Gainer.
Le pilates, vous ne pouvez
pas. Et si vous pouvez pas le faire tout seul, vous pouvez tout simplement aussi aller faire du rameur. Vous aimez bien apparemment le vélo d'appartement, vous pouvez faire du vélo d'appartement. Et à côté de ça, je vais aussi parler de nutrition, du coup. De voir aussi pourquoi on a un peu de ventre, de faire aussi attention à sa nutrition, tout simplement, et de vraiment bouger au quotidien. De bouger au quotidien, c'est ce qui va, tout simplement, on va dépenser plus de calories, et on va brûler plus facilement
combien
des graisses.
Combien on doit marcher par jour, idéalement ?
Alors, idéalement, on est sur 20 minutes, minimum.
De marche,
minimum.
Quoi qu'il arrive.
De
ça,
marche.
On peut...
Et de marche sans arrêt, sans s'arrêter. C'est-à-dire que c'est pas du shopping, voilà, on marche un petit peu, on s'arrête, on regarde une vitrine, voilà. C'est vraiment 20 minutes de marche.
Donc ça, c'est bien, 20 minutes d'un pas soutenu.
Exactement, c'est ça. Ce qu'on appellera une activité physique modérée. Ça veut dire que là, vous pouvez, vous êtes un peu essoufflé, mais vous pouvez toujours parler.
D'accord. Bon, bah écoutez, c'est... Je vous remercie.
On va commencer comme ça, alors.
On
merci
va y coder. Alors, en forme Yvonne et à fond Raymond, on comprend que vous adressez à un certain type de clientèle. C'est donc le premier
exactement.
Club forme et santé pour les femmes et les hommes de plus de 40 ans. Bien évidemment, on n'a pas parlé d'activité sexuelle, d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour entretenir la forme ?
Exactement, exactement, c'est une bonne chose.
Bon, bah écoutez, merci.
Ce sera la chute, merci beaucoup Pascal.
Il est 12h27, l'info, la grande édition de 12h30, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
Quand l'histoire et son utilisation déchirent la gauche, le tweet de Jean-Luc Mélenchon en liant la marche du 16 octobre à la Révolution française fait tousser ses alliés de la NUP. Le gouvernement met la pression sur les pétroliers, leur demande de faire un effort sur les salaires pour mettre fin aux pénuries de carburant. Le prix Nobel de la paix qui récompense des opposants à Vladimir Poutine le jour de son anniversaire, et cela alors que l'armée russe enchaîne les revers sur le front ukrainien. Attention au démarchage sur la vignette critère. Derrière les SMS, c'est souvent une arnaque. À 12h40, plongée dans le business florissant des animaux de compagnie, très cher toutou Pierre Herbulot vous dira tout. Et puis votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant 13h aujourd'hui. Thomas Joly, c'est le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous verrez qu'il y pense déjà. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous allé dans plusieurs stations-service avant de réussir à faire votre plein ?
On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Vous pourrez évoquer également ce sujet. Une femme sur quatre qui accouche aujourd'hui en France a plus de 35 ans. Peut-être est-ce votre cas ? Appelez-nous au 32-10.
La météo à la fin du journal avec vous Valérie Quintin, mais un indice déjà.
Il fait beau et il fait doux partout.
Super, merci Valérie.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Elle avait échappé de peu aux attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Chanty avait alors 17 ans. Les terroristes s'étaient fait exploser à quelques mètres d'elle à l'aéroport de Zaventem. Elle ne s'en est jamais remise. Cindy Hubert, on vient d'apprendre que cette jeune femme s'est faite euthanasier en toute légalité en Belgique. Elle a invoqué sa détresse psychique.
Oui, la jeune femme se décrit comme un fantôme après les attentats. Elle multiplie les séjours en hôpitaux psychiatriques. Elle tente de se suicider à plusieurs reprises. Sa médication est de plus en plus lourde et son envie d'en finir se précise. Année après année, Chanty fait plusieurs demandes d'euthanasie, mais elles sont toutes refusées. En Belgique, la loi n'exige pas que la personne soit en fin de vie, en phase terminale d'une maladie incurable. L'euthanasie est possible pour les majeurs et les mineurs en situation de souffrance psychique inaltérable, possible pour Chanty donc en théorie. Au printemps dernier, deux psychiatres accèdent finalement à sa demande. Le 7 mai 2022, Chanty est euthanasiée à l'âge de 23 ans, entourée de sa famille. Elle écrit sur Facebook « Je vais maintenant partir en paix ». Pour la commission fédérale chargée de contrôler ces euthanasies, tout a été fait dans les règles. Mais selon nos confrères belges de la RTBF, une enquête serait tout de même ouverte au parquet d'Anvers pour vérifier si la loi a bien été respectée.
Cindy Hubert pour RTL.
RTL Midi.
Encore des tensions au sein de la NUPES. Cette fois, c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui passe mal.
Oui, alors que la gauche organise le 16 octobre prochain une marche contre la vie chère et l'inaction climatique, Jean-Luc Mélenchon a fait sur les réseaux sociaux un parallèle avec la Révolution française. Il explique qu'en octobre 1789, les femmes qui marchaient sur Versailles avaient ramené le roi, la reine et le dauphin de force à Paris, avant d'ajouter... Faites mieux le 16 octobre, pas du goût de ses alliés, à l'instar de Yannick Jadot qui tacle le leader insoumis et l'appelle à mesurer ses propos.
Je pense que la brutalisation à ce point du débat politique, à la fin, ça ne sert que Marine Le Pen. Ça ne sert pas à faire avancer nos propositions. Les Françaises et les Français s'interrogent pour beaucoup de savoir s'ils vont devoir choisir entre manger, se déplacer, se chauffer. Et je pense que ça construit de la défiance vis-à-vis de la politique. On n'est pas dans une situation où on doit mettre la tête de nos dirigeants au bout d'une pique.
Yannick Jadot, micro RTL de Marie Mollet.
Parole sage, de longues minutes d'attente et parfois à l'arrivée, rien au bout du pistolet. Le désarroi reste palpable pour les automobilistes dans de nombreuses stations essence.
Et s'il invite les Français à ne pas paniquer, le gouvernement ne veut pas pour autant voir la situation s'éterniser. Il a donc mis un coup de pression aujourd'hui sur les pétroliers, leur réclamant des efforts sur les salaires. Car le nœud du problème, Martial You, il est en partie dans des raffineries bloquées par des mouvements de grève.
Oui, la CGT demande des revalorisations salariales de 10% et des embauches supplémentaires. Le mouvement tombe évidemment très mal pour la direction de Total Energy parce que ça coïncide avec des tensions d'approvisionnement depuis début septembre, c'est-à-dire depuis le début de la ristourne supplémentaire de 20 centimes proposée par le pétrolier dans ces stations. Donc il y a 8 raffineries en France, 5 sont possédées par Total Energy. Le gros problème, c'est le site normand du Havre parce qu'il fabrique 22% de l'essence vendue dans tout le pays, 1 litre sur 5. Il alimente le Nord, la Normandie, la région parisienne, donc des bassins de population énormes. Vous avez aussi la Med et Grands Puits qui sont bloqués, mais là les conséquences sont moins graves parce qu'il s'agit de biocarburants. Mais même sur des sites qui ne sont pas considérés en grève par Total Energy, comme Fezin dans le Rhône, le carburant ne sort plus. Notre correspondant dans la région, Frédéric Perruche, nous le signale. 150 des 600 salariés sont en grève, 1 sur 4, mais ça touche les camions. L'usine tourne, mais plus rien n'en sort. Le gouvernement veut donc qu'on sorte de cette crise en rouvrant l'approvisionnement. Pas besoin de ça en plus, des inquiétudes sur le gaz ou l'électricité.
Avec des profits énormes pour Total cette année, les actionnaires seront bien servis, si j'ai bien entendu vos dernières informations.
Ce sont des profits qui sont liés effectivement à la montée des cours du pétrole, donc ils sont à 15 milliards, je crois, déjà.
Donc les salariés de base, entre guillemets, je comprends qu'ils peuvent demander une augmentation de leur salaire.
Des revendications salariales, il y en a partout, effectivement, y compris chez Total, mais dans tous les plus grands groupes en ce moment, et c'est normal.
Martial You pour RTL, merci beaucoup Martial.
Au lendemain de son grand appel à la sobriété, l'Élysée s'explique sur l'augmentation de son budget de fonctionnement.
Oui, car ce dernier va augmenter de près de 5% l'an prochain. Ça peut paraître étonnant alors que le président annonçait la fin de l'abondance. Mais William Galibert, vous avez regardé, vous, les chiffres pour RTL. Augmentation ne veut pas dire gabegie.
Oui, c'est vrai qu'on parle d'énormément d'argent. Ce budget de l'Élysée va passer de 109 à un peu plus de 114 millions d'euros l'an prochain. 114 millions, mais à l'Élysée et pas simplement au palais. Dans tous les bureaux qui en dépendent, on trouve des fonctionnaires et des militaires. Et ils ont droit, comme tous les autres, à la revalorisation du point d'indice de 3,5%. On parle d'environ 800 personnes. Donc ça se chiffre rapidement en millions d'euros. Ça représente l'essentiel de cette hausse des dépenses. Le reste va aller au voyage présidentiel. Budget voyage qui va passer de 15 à 16 millions d'euros l'an prochain. Et là aussi, la présidence explique qu'après le Covid et qu'avec la guerre en Ukraine, le nombre de déplacements, notamment à l'étranger, repart lui aussi fortement à la hausse.
William Galibert.
En parlant de la situation en Ukraine, ce n'est certainement pas comme ça que Vladimir Poutine espérait célébrer son anniversaire.
Oui, le président russe fête aujourd'hui ses 70 ans, et alors que le Nobel de la paix vient d'être décerné à ses opposants, le Biélorusse Aless Bialyatsky, l'ONG russe Mémorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, l'autre camouflé vient du front ukrainien. Les troupes russes ne cessent d'essuyer des revers, Julien Fautra. Elle recule et la contestation grandit au sein même des troupes.
Oui, les témoignages se multiplient, des soldats perdus, se sentant comme de la chair à canon avec des kalachnikovs rouillés.
On n'a pas d'affectation. Et on a passé deux nuits dehors. Nous sommes obligés d'acheter notre propre nourriture. Et les officiers nous traitent comme du bétail. Regardez combien on a de fusils. Et ils sont pourris, c'est des armes des années 70.
Entre le moment où un soldat est réquisitionné et le moment où il arrive sur le front, il doit se passer des semaines. Le temps qu'il soit formé, un minimum, le temps qu'il soit équipé et le temps que soient constituées des unités combattantes pour une organisation efficace sur le terrain. Ce sont donc les témoignages d'une désorganisation militaire majeure, témoignages d'un découragement à mettre en regard avec les soldats ukrainiens surmotivés par les victoires. On voit aussi des matériels russes très anciens arriver sur le terrain pour colmater les pertes, à mettre en regard là aussi avec les matériels livrés à l'armée ukrainienne par les Occidentaux, très perfectionnés. Et c'est tout un renversement du rapport de force qui s'opère un peu plus chaque jour sur le front.
Julien Fautra du service étranger de RTL.
Et puis on voulait vous alerter sur cette nouvelle arnaque très en vogue. Attention aux SMS, vous appelant à acheter une vignette Crit Air.
Car il y a peu de chances que ce message émane vraiment des autorités. Maxime Lévy, en réalité c'est une technique assez courante de hameçonnage pour abuser des moins méfiants.
Oui, vous avez peut-être vous aussi reçu ce simple SMS indiquant que vous n'étiez pas muni de votre vignette Crit'Air. Pour cela, un lien vers un site web vous invite à la récupérer. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai site gouvernemental. Il y a le logo République française, des textes de loi, même le design, les couleurs du site sont quasi identiques. Sauf que, vous l'avez dit, c'est bien une arnaque, une technique classique de hameçonnage. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation, vos données personnelles et pire, vos données bancaires pour soi-disant acheter en ligne la vignette et vous faites tout dérober. Alors, pour ne pas se faire avoir, deux conseils déjà. Le site officiel Crit'Air n'envoie jamais de SMS pour acheter des vignettes. Donc si vous en recevez un, c'est obligatoirement une arnaque. Et puis, le seul site web officiel, ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un, c'est certificat-r.gouv.fr. Très important ce .gouv.fr qui n'apparaît pas sur les sites frauduleux.
Maxime Lévy du service police-justice de RTL. La nouvelle vague de Covid poursuit sa hausse en matière de contamination et d'hospitalisation. Plus de 16 000 patients hospitalisés désormais comme à la mi-août. Et puis en bref, le foot, et à 39 ans et demi, Franck Ribéry serait sur le point d'annoncer la fin de sa carrière. Selon la presse sportive italienne, le vice-champion du monde 2006 avec les Bleus qui aura marqué l'histoire du Bayern Munich, notamment évolué cette saison avec la Salernitana en Italie. Mais son corps lâche, les genoux sont a priori trop douloureux. Vos genoux vous vont bien, Valérie Quintin ?
Moi, ça va, j'ai un coach.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi ?
Du soleil presque partout. Il reste encore quelques brumes sur la pointe du Finistère ou encore dans le Jura. C'est pas grand-chose, ça va se lever. Place au soleil partout en France. Un soleil un petit peu voilé le long des côtes de la Manche. Et puis on aura une petite incursion orageuse sur les Pyrénées avant la fin de l'après-midi. Donc ça ira jusqu'à l'averse en montagne. Les températures restent douces. 18 degrés à Brest aujourd'hui, 19 à Abbeville et Nancy, 20 degrés à Paris comme Orléans, 23 degrés à Toulon, 25 degrés pour Ambérieu et 26 degrés à Montauban.
Merci Valérie.
Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien, disait je ne sais plus qui.
On va parler... Ça, c'est une belle citation.
Bien sûr. On va parler de cet amour qu'ont certains pour le chien. Si tu veux de la fidélité, disait également une autre personne, achète un chien ou prends un chien, plus exactement. Donc on va parler de l'amour des uns et des autres pour les chiens.
Ce dictionnaire des citations sans les auteurs est quand même assez savoureux. Merci Pascal.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Je lui prépare tous les repas nécessaires pour tous les jours en petites portions individuelles que je congèle. Moi, j'achète des grosses barquettes de bœuf bourguignon, on appelle ça. Et puis du riz ou des pâtes et des petits légumes. Bon, déjà, je pense qu'elle préfère. Ça me coûte moins cher et en plus, je sais que c'est meilleur.
Et cette femme ne parle pas d'un enfant, mais bien de son chien. Témoignage qui illustre la place que peuvent prendre les animaux de compagnie dans certains foyers. Et le business que ça engendre, un engouement qui ne se dément pas, une croissance de 8% dans le secteur. Pour en parler avec nous, Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Bonjour.
Bonjour.
Pierre, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage, vous avez enquêté sur ce sujet. D'abord, pourquoi ces animaux prennent une telle place aujourd'hui ? Est-ce qu'on se l'explique ?
Oui, alors pour bien comprendre, il faut chercher du côté de la période Covid qui a décidément bouleversé pas mal de choses dans nos vies. Passer beaucoup de temps avec les bêtes à la maison pendant les confinements ou dehors pour promener son chien à ce moment-là a accéléré finalement un processus qui avait commencé il y a 20 ans. L'animal de compagnie devient de plus en plus un membre de la famille. Et quand on aime, on ne compte pas et donc on dépense plus. Ça se vérifie quand on regarde le nombre d'animaux de compagnie en France. 7 millions de chiens, le chiffre est stable. 15 millions de chats, c'est en très légère augmentation. Donc, plus que le nombre, c'est bien l'attention et donc les sous qu'on leur consacre qui augmentent.
Et ça génère un écosystème assez impressionnant, tiré notamment par le produit phare, les croquettes.
Ouais, les sacro-saintes croquettes. Il suffit de remuer le paquet pour ameuter tous les chats du quartier. En fait, on assiste depuis quelques années à une montée en gamme. Fini le clivage croquettes de supermarché d'un côté, croquettes de vétérinaire de l'autre. On trouve aujourd'hui des tas de marques qui prônent une alimentation premium avec une liste d'ingrédients réduite, avec moins de sel, moins de céréales, plus de protéines animales, donc mieux adaptées. Sur les parquets, on retrouve même les code qu'on a finalement, nous, avec notre alimentation, nous, humains, les entreprises mettent en avant une fabrication française, parfois l'absence de gluten aussi. En gros,
absence on fait... de gluten pour les chiens.
Oui, absolument, c'est ça.
Mais c'est le chien qui le demande ou c'est le maître qui l'exige?
Je pense que c'est le maître pour son chien. On fait attention à ce qu'on met dans notre assiette et en fait, on va faire de plus en plus aussi attention à ce qu'on met dans la gamelle de nos animaux de compagnie. 50% de croissance par an pour la société Ultra Premium Direct, positionnée sur ce créneau des croquettes haut de gamme. 40 millions
c'est
d'euros de chiffre d'affaires.
Ça.
Voilà, ils ont 80 000 abonnés. Ils en
ont
avaient 15 000 il y a quelques années.
Il y avait un
non,
espace.
Mais c'est un marché
oui,
qui, est, voilà, qui est en croissance. Et donc, effectivement, voilà, il y a un coup à jouer pour les industriels. Cette entreprise dont je vous parlais ouvre une branche en Italie. Alors, à quel prix ? Bien sûr, ça coûte beaucoup plus cher. C'est 2, 3 à 4 fois plus cher les croquettes haut de gamme.
C'est voilà, un filon, ça peut s'appeler comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pensent les vétérinaires d'ailleurs.
Alors, si vous allez voir les croquettes
de
vétérinaire...
De la croquette sans gluten pour le chien.
Quand vous achetez des croquettes chez le vétérinaire, vous achetez des croquettes qui sont déjà 3, 4 fois plus chères, mais vous ne les trouvez pas en grande surface ou sur Internet, c'est vraiment chez le vétérinaire.
Bon, mon chien, c'est quelqu'un. Ça, c'est Raymond Devos qui le disait tout à l'heure, donc j'ai la citation. Mais les animaux ne sont pas épargnés par la révolution numérique.
Oui, absolument. On parle de pet tech, les nouvelles technologies liées aux animaux de compagnie. Alors là, vous avez des litières connectées qui analysent les urines de votre chat. Vous avez des trackers GPS dans les colliers des chiens. La téléconsultation vétérinaire, on n'arrête pas le progrès. Il y a même des incubateurs à start-up spécialisés pour les chiens et les chats. Ça, c'est Nestlé Purina qui fait ça, qui est un leader dans le marché de la croquette. C'est en gros un incubateur à start-up. Ils financent, ils vont accompagner une start-up, la financer jusqu'à 50 000 euros et l'accompagner dans le développement de leur application. Il y a des fonds d'investissement, Pascal, qui s'intéressent de très près, qui disent que c'est un marché prioritaire. Ils investissent des dizaines de millions d'euros.
Non, mais dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le GPS dans le collier, parce que lorsque tu as perdu ton chien ou ton chat, d'ailleurs on connaît le drame que ça peut être, ça c'est vraiment intelligent, intéressant. Et
ces entreprises qui font ça pour pour les valises, pour les sacs à dos, qui se sont dit il y a un marché et donc on va intégrer au collier pour chien des trackers et ça se vend effectivement très bien.
On pourrait le faire pour les êtres humains parfois, pour savoir où, où est son compagnon ou sa compagne. Mais non, bien sûr.
Mais le simple fait que vous ayez l'idée, est
mais en revanche, effectivement, c'est notamment pour les enfants qui sont si malheureux lorsqu'ils perdent leur chien, c'est une manière de le retrouver peut-être plus rapidement.
Ouais.
Ah, non, je croyais que Damien avait une petite surprise pour vous.
Que les porcs sont à point. Le monde fait flipper, mec, tu sais plus rien, matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. J'espère.
Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. C'est très célèbre, ça, c'est comme déclaration.
Alors, ça, c'est Booba.
Oui,
mais c'est d'abord Ferdinand Gravé.
Oui.
Je pense que vous aviez plus cette référence-là que Booba.
Non, pas forcément, mais j'ai entendu ça tellement souvent. Plus j'aime les hommes, plus j'aime mon chien. Bah écoutez, plus j'aime les hommes, plus j'aime également Monsieur Herbulot. C'était très bien de vous écouter. Et puis ça fera réagir, je pense, surtout, parce que c'est un sujet toujours qui intéresse nos auditeurs. Il est 12h49. La culture dans une seconde.
À tout de suite.
RTL Midi.
Céline Landreau est pas... RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et aujourd'hui on parle grand spectacle avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Oui, car Steven Bellery a rencontré pour RTL Thomas Joly à l'occasion des répétitions de Starmania, vous savez, l'opéra rock qui revient. La première aura lieu ce soir au palais Nicaïa de Nice. Thomas Joly qui signe la mise en scène de Starmania et qui sera aussi le directeur artistique des cérémonies de Paris 2024. Un rendez-vous auquel il pense déjà beaucoup, comme il l'a confié en exclusivité à Steven.
C'est irrefusable et c'est au-delà du rêve parce que, un peu comme Starmania d'ailleurs, c'est des rêves que j'osais même pas faire, pour être tout à fait honnête avec vous, et qui m'incombent. Et c'est au-delà du rêve un honneur très grand, une responsabilité très grande, mais surtout possibilité, et c'est pour ça que j'ai accepté, de faire de Paris une grande scène pour le partage, pour se fédérer, pour s'ouvrir au plus grand nombre. Et vous savez que moi, qui viens du théâtre dit public, et dont notre mission est de s'adresser au plus grand nombre, au plus large public, là, je m'adresse carrément au monde entier. Ce qui est le rêve d'un artiste, enfin, c'est une opportunité unique, c'est le spectacle d'une vie. De toute façon, les Jeux Olympiques sont venus à Paris la dernière fois, 1924, donc ça n'arrive qu'une fois par siècle. Cette fois-ci, c'est mon tour et c'est un immense honneur et une très très grande joie, avant la peur.
Votre cerveau, il fulmine déjà d'idées.
Oui, mon cerveau, il fulmine beaucoup trop. Je dors peu, si vous voulez tout savoir. C'est pas très grave parce que je suis tellement vivifié par ce que je traverse en ce moment artistiquement, c'est-à-dire Starmania, c'est-à-dire l'élaboration de ces cérémonies et mes autres spectacles en tournée, que honnêtement, on dormira un peu plus tard.
Vous avez déjà une ligne directrice dans votre esprit, il y aura de la culture, il y aura de la grandeur de la France, il y aura les artistes qu'on a aimés, il y aura tout cela.
Il va falloir établir, et c'est le premier travail sur lequel on se penche en ce moment, le récit qu'on va adresser au monde entier. Quel récit la France a envie de donner au monde au moment où le monde la regarde et au moment même où elle accueille le monde entier. Moi, je crois que la France est un pays qui est un pays d'idées. Avant d'être une identité, je crois qu'il faut sortir de cette impasse de l'identité. L'identité de la France, c'est un récit permanent qui se construit, qui se transforme, qui s'élabore avec l'influence et la confluence de cultures qui viennent d'ailleurs, et ça tombe bien. Le monde arrive à Paris et Paris s'adresse au monde. Ainsi donc, le spectacle sera cette grande fête qui relie à la fois l'histoire et la création, qui relie le patrimoine et l'innovation, puisque cette cérémonie d'ouverture, en tout cas des Jeux Olympiques, se passera autour de la Seine, le fleuve. Moi, j'ai appelé mon projet la possibilité d'un nous, les Jeux, virgule, un nous. C'est-à-dire, je crois qu'il est temps, avec les dissensions, les troubles qu'on traverse, qu'ils soient écologiques, économiques, politiques, sanitaires, de dire, alors donc, comment est-ce qu'on vit ensemble ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre ensemble. En tout cas, moi, je préfère faire humanité avec mes semblables partout sur la planète que d'accepter la division, la tension, etc. Donc, ce spectacle doit être un grand moment fédérateur qui dit, alors, comment vit-on ensemble ?
Voilà pour les confidences de Thomas Joly recueillies par Steven Bellery pour RTL. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour le double mixte.
Discours politique également de Monsieur Joly, quand même.
En
filigrane, il y a toujours un peu de politique, même dans l'art, manifestement.
Jean-Michel, vous êtes notre référent olympisme au service des sports. Alors, on l'a entendu, et Pascal le soulignait, Thomas Joly veut relier histoire et création. Dans quel cadre, justement, va-t-il pouvoir créer ? Il le disait, la cérémonie d'ouverture aura lieu autour de la Seine, du fleuve, la Seine.
Oui, il faut mettre la Seine en scène. Et c'est ça qui est difficile, parce que ce théâtre n'a jamais été celui d'une cérémonie d'ouverture. 600 000 spectateurs, c'est 10 fois plus qu'un Stade de France en configuration olympique. 80 écrans géants, une une flamme sans doute allumée au Trocadéro, du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, avec entre 160 et 200 barges, péniches qui navigueront avec le défilé des athlètes. C'est un défi XXL à la mesure du talent de ce jeune artiste.
Alors on se souvient de Philippe de Coufflet en 92, on se souvient également de Jean-Paul Goude, c'était pas les Jeux Olympiques mais c'était important, c'était le défilé du bicentenaire. Il y avait également la cérémonie d'ouverture de 98 qui avait été très très réussie. Qu'est-ce qu'on attend d'une cérémonie de ce type ?
Eh bien, il faut écrire une histoire. Au-delà du défilé, il faut créer un spectacle, écrire une histoire, sublimer Paris et l'Olympisme. Donc là, il faut trouver une idée. Il y a des références sur un fleuve. Lors de l'anniversaire du règne de la reine Élisabeth en 2012, il y avait 1000 bateaux sur la Tamise. Donc là, on a l'air de dire, en termes de sécurité, c'est très difficile. Les Anglais l'ont fait, m'a confié récemment l'un des dirigeants de Paris 2024. Pourquoi ne pourrions-nous pas arriver à monter ce projet qui paraît, c'est vrai, très important.
Jean-Michel, vous en avez couvert, vous, des Jeux Olympiques et donc des cérémonies d'ouverture. S'il y avait une image qui vous avait plus marqué que les autres, la plus belle cérémonie que vous ayez vue ?
Alors la plus belle, c'est Lillehammer, jeu d'hiver 94, parce que les Norvégiens avaient mis cette cérémonie devant les tremplins de saut et ça calquait exactement à ce qu'il fallait dans ces jeux d'hiver. Mais l'image, c'est peut-être justement la reine qui arrive en hélicoptère et en parachute au-dessus du stade olympique de Londres, même si c'était un clip au bras de James Bond. Là, on crée quand même quelque chose de très particulier et surtout un souvenir pour la vie de ceux qui l'ont vu et pour tous les athlètes qui étaient dans le stade.
Formidable.
Ça va pas être facile, hein, du coup.
Et quand la reine, effectivement, arrive dans le stade, on imagine qu'elle sort de l'hélicoptère.
Personne n'était au courant, ni sa famille, ni ses petits-enfants, personne n'était au courant. Elle a reçu d'ailleurs une récompense pour avoir tenu ce rôle aux côtés de James Bond.
On sait le jour de l'ouverture déjà, c'est fixé le calendrier.
Oui, le 26 juillet 2024.
Et on sait l'heure, par exemple, à laquelle c'est
programmé. Alors, en principe, c'est en fin d'après-midi, parce que si on veut allumer la vasque olympique à la tombée de la nuit pour qu'elle puisse se refléter dans un horizon encore plus majestueux, eh bien il faut que ça soit entre 19h et 22h.
Et ce sera un samedi forcément parce que ça dure 15 jours les Jeux Olympiques, ça commence généralement...
Ça peut être plutôt un vendredi soir.
Un vendredi soir. Voilà.
Et parmi quel temps, Valérie
Il fera forcément un petit peu plus chaud que maintenant, je pense. Hein. Je ne prends pas trop de risques en vous disant ça.
Et parmi les grandes cérémonies, j'ai oublié les géants qui nous avaient marqués. Le géant Moussa qui était resté coincé, comme vous le savez, à Place de la Concorde pendant de nombreuses heures. Il est 12h59. Merci Jean-Michel.
Merci à vous.
Les auditeurs dans une seconde.
Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.